fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Zusammen, wir sind live in der Sendung Fenster auf Kanal K, 20 Uhr auf Radio Kanal K. Alors, Fenster auf Afrika ist eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Heute Abend diskutiere ich mit meinen Gästen über aktuelle politische Themen in Afrika, aber natürlich auf Französisch. Viel Spaß auf Kanal K. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Bonsoir à toute l'Afrique, amis auditeurs, et merci de nous suivre en direct sur le www.canalk.ch dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous sommes installés dans la cité argovienne en Suisse alémanique. Et bien ce soir, nous allons faire un point sur l'actualité politique africaine avec deux invités panafricanistes et qui seront bien évidemment en direct avec nous par téléphone. Et ce sera après, bien sûr, le briefing sur l'actualité politique au Togo avec notre correspondant, Lomé au Togo, Augustin Amenga. Gisela Rosato, Esteban Gagnon, Josué Maoli, Romé Kounodi, avec nos deux correspondants, Lomé, Fabi Kouassi et Augustin Amenga, constituent l'équipe de production. Lomé Kounodi est en ligne en direct depuis Beaune, bien sûr, et bientôt pour son éditorial de la soirée. Romé, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous les amis auditeurs de Canal K.
Merci de nous accompagner dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, Fenêtre sur l'Afrique est réalisée et présentée par Sylvain Amos, amis auditeurs de Radio Canal K, amis panafricanistes, amis du continent noir. Merci de nous suivre sur le www.canalk.ch. Et sans plus tarder, et comme Romé Kounodi est en ligne, nous vous proposons de suivre tout de suite en direct depuis Beaune, Romé, pour son éditorial.
Amos, permets-moi au nom de nos auditeurs de Canal K, de l'Afrique tout entière, en particulier au nom de la communauté togolaise en Allemagne, d'adresser nos condoléances les plus affectueuses à la famille Agbessi, en Allemagne, frappée par le drame du décès de Madame Amma Galé Agbessi, dite Maggi, poignardée à mort par son fils. Après un différend, ici en Allemagne, dans le district de Göppingen, tous nos compatriotes sont éplorés, ainsi que la famille. Maggi, que la terre te soit légère, dort paisiblement dans la paix du Seigneur. Le Mali mutilé, sous le silence des voisins. À la fin, nous nous souviendrons, non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis, Martin Luther King. Le silence coupable des pays amis, pays voisins du Mali, devant la mutilation dont ce pays fait face depuis près de 2 mois, devient révoltant et insupportable. Oui, ayons le courage et l'audace de crier haro sur le cas du Mali. Il est même moins violent et complaisant de dire que le Mali est aujourd'hui mutilé dans son intégrité, déchiré, abîmé et détérioré par la brutalité humaine, la bestialité des ennemis de l'Afrique. J'ai nommé l'Azawid, le MNLA, l'ACMI, qui se déchire le Nord par l'imposition sauvage de la loi de charia et la violation multiple des femmes, au nom d'une idéologie violente qui, ayant le courage, encore une fois de le dire, ressemble pas à la religion musulmane prônée par le prophète Mahomet, qui est une religion d'amour universel et non violente, mais plutôt une religion imposée par ceux-là qui sont en réalité des terroristes de l'Afrique. Le Mali est limitée au nord par l'Algérie, le Niger et le Burkina à l'est, la Côte d'Ivoire et la Guinée au sud, le Sénégal et la Mauritanie à l'ouest. Le Mali est un pays relativement grand, puisque sa superficie, 1,2 million de kilomètres carrés, correspond à peu près à 30 fois la Suisse, soit celle réunie de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, confrontée à une forte islamisation qui occupe le nord et divise le pays. Et les pays voisins regardent le drame comme si eux sont à l'abri de cette folie islamiste. Pourtant, sept pays limitrophes sont des voisins complices de ce drame désolant. Amis auditeurs, au lieu de passer par des procédures longues et farfelues, l'ONU, l'UIA et le vote des Nations Unies pour quémander des forces, pourquoi les sept pays voisins ne s'entendent pas pour faire court, envoyer concomitamment des logistiques pour mater les terroristes du Nord, véritables envahisseurs et ennemis du continent? La réponse me paraît assez difficile. Et la raison me fait croire que c'est encore une fois l'égocentrisme qui domine les voisins des pays limitrophes du Mali, qui pensent que l'enfer c'est les autres. Mais au finish, comme Martin Luther King, les Maliens à la fin se souviendront non pas des mots de leurs ennemis, mais du silence de leurs amis.
Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Nyelolo. Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Nyelolo. Mama Africa, we nye danyelolo to. Anosi huye nyim to devi. Adino badino Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Nyelolo. Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Nyelolo. Bukele la mena made, bukawo me ye beso. Play me hoa when I'm blue. Mama, mira lo titre o la gallo. Africa vive, nyaro ya milo. Africa, eh, Africa, eh, Africa, eh, yelo.
Africa, Africa, Nyelolo, chanté par le jeune artiste musicien togolais Arsène Drouvi, qui évolue actuellement en Italie. Et tout de suite, nous avons en ligne notre correspondant, Augustin Méga, et qui nous fera le point sur le briefing sur l'actualité politique au Togo. Nous le prenons tout de suite. Augustin Méga, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Augustin Méga, vous êtes notre correspondant. Et l'actualité, c'est l'adoption de la loi sur le code électoral. C'est également le vote ce jeudi dernier de la loi organique fixant le nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Alors, un texte voté, c'est un consensus, bien évidemment, et qui porte de 81 à 91 le nombre de députés. Alors par contre, la répartition des sièges reste inconnue des députés et de la classe politique. Et Également, parallèlement, le FRAC, le Front Républicain pour la Tenance et le Changement, est toujours dans les rues de Lomé. Alors, quelles sont les réactions au niveau des politiques depuis Lomé et Augustin Améga?
Au niveau du collectif Souvent Togo, il y avait exigé le rejet pur et simple de cette pour qu'on puisse créer un accord, un consensus en vue de mettre en œuvre les ressorts et garantir des élections transparentes. Et le texte sur la loi organique portant le nombre de sièges à l'Assemblée nationale n'a pas été voté par les députés du CAF. Ils ont quitté la séance juste avant les autres. Et je suis l'IFCTC, notamment au gouvernement, les députés du groupe parlementaire, qui ont également voté contre la loi, portant un nombre de sièges, parce qu'ils estiment que les critères qui vont présider dans la répartition ne sont pas du tout clairs. On était également que lors de ce vote, il y a eu des députés du FCTC également. Ils ont réclamé la clarification sur la répartition des sièges. Le député, notamment le député de Thun, a également protesté par rapport à la perspective de voir un siège retiré à la préfecture de Thun, alors que la préfecture de Thun est plus peuplée et plus vaste que la préfecture de Charagon. Ce siège-là, disons, ça veut dire que c'est un enjeu d'un contenu minimal. La loi également modifiant le code électoral n'a pas non plus changé d'un consensus et a été voté uniquement par le député de l'UFC et du RPT. Et donc l'opposition à ce niveau continue par demander un accord global sur les réformes effectivement de garantir des élections transparentes et équitables. Et a dit que le pouvoir sera un peu responsable de tout ce qui adviendra comme violence éventuelle en cas de variation de direction non consensuelle. Donc, on est dans un climat qui ne garantit pas du tout la tenue d'une élection apaisée. Et je sens que le ministre, Pascal Bégin, de l'administration, a annoncé, après les autres, a annoncé pour fin. Fin octobre, début novembre. Donc, une fois de plus, le stress, je pense que ce référent-là, sur la perspective des élections législatives à venir, alors que l'Union européenne, c'est la classe politique, la classe politique de l'opposition, elle vise des réformes consensuelles en vue de garantir des élections équitables au moins une fois au pays.
Augustin Améga, merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, vous êtes en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique et comme annoncé en début de cette émission, et nous allons faire maintenant le point sur l'actualité politique africaine avec nos deux invités qui sont tout de suite en ligne en direct, l'un depuis Vienne en Autriche et l'autre depuis Paris en France. Et nous allons tout d'abord prendre Yves Ekwe à Maïso et depuis Vienne, Yves Ekwe à Maïso. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Yves Ekwe à Maïso est docteur, hein, il est directeur du groupe d'influence Afrocentricité. Il est également docteur, il est également économiste et consultant international. Et nous avons également tout de suite en direct depuis la France, comme je viens de le dire tout de suite, Alain Jules qui est journaliste, blogueur. Alain Jules, bonsoir.
Bonsoir Amos, et merci pour l'invitation.
C'est moi. Alors, Diankouda Traoré, un président de transition au Mali, a subi une agression et le lundi 21 mai dernier. J'espère que vous êtes tous au courant comme nous. Il a subi cette agression le lundi 21 mai dernier au palais présidentiel à Bamako. Un acte vivement condamné par l'opinion international et aussi dans les milieux politiques africains, alors qu'il subit toujours des suites en France, la crise politique malienne, et après le coup d'état militaire avec à sa tête le capitaine Sanogo, perdu toujours. Et l'insécurité règne partout dans ce pays. Et Boni Yayi, chef de l'État béninois, président de ANSS de l'Union africaine, opte pour une création d'une force militaire africaine avec l'appui de l'ONU et pour sécuriser le Mali. Alors, quel est votre commentaire? Et je voudrais tout d'abord que Dr Yves Kouyamagizo nous réponde à cette question.
Merci encore pour l'invitation. Le groupe en sardine islamique radical, les mouvements de libération nationale d'Azawad, mouvement MNLA, comme on dit, qui sont des Touaregs maliens, qui réclament leur territoire usurpé, d'ailleurs depuis la colonisation française, des groupes dissidents à l'intérieur de l'islam, il y en a plusieurs, les grandes puissances elles-mêmes, qui ne disent mot et qui n'ont pas envoyé d'ailleurs des armes, alors qu'ils sont intervenus en Côte d'Ivoire et en Libye, les réseaux ésotériques, comme les francs-maçons, mais il y en a d'autres, qui tentent de mettre à la tête des pays africains quelques-uns des leurs, pour ne pas dire la plupart de ces pays ont essayé d'imposer cette structure-là. Les militaires maliens eux-mêmes, ceux qui ont fait le coup d'État, les militaires maliens restés fidèles au président Amadou Toumani Touré, ATT, et puis les partis politiques maliens eux-mêmes divisés sur le soutien apporté à ce putsch. Et puis il faut rajouter la société civile malienne qui donne de la voix. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont sans opinion. Et puis revenez sur la notion régionale, la CDAO, dominée par le président du Burkina Faso et le président Alassane Ouattara, et l'Union africaine elle-même, qui aurait dû intervenir depuis le début et qui a laissé ce rôle à la CDAO, privant ainsi les pays, notamment l'Algérie et autres, d'intervention. Donc quand on met tout ceci en place, on s'aperçoit quand même que la stratégie de la CDAO a quelques petits problèmes. Et très le départ, on a constaté plutôt une CDAO qui voulait mettre un Mali sous diktat en croyant qu'il s'agissait uniquement d'un coup d'État, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc il y avait une mauvaise analyse de stratégie, une mauvaise analyse de la situation.
Et Dr Yves Kouyamagizo, restez toujours en ligne en direct avec nous depuis Vienne. Et nous allons prendre maintenant Alain Jules. Alain Jules, vous avez suivi les développements du Dr Yves Kouyamagizo. Alors, quelle est votre réaction, Alain Jules?
Les Maliens peuvent dire merci à Sarkozy pour commencer. C'est un peu le chaos aujourd'hui. Et c'est regrettable, d'autant plus que quand on voit un modèle de démocratie qui était le Mali tomber aussi bas, on ne peut que le regretter. Alors les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest réfléchissaient dès le départ à une intervention militaire. Ils ont par ailleurs annoncé un embargo total, immédiat, au moment où notamment la ville de Tombouctou tombait, je crois, entre les mains des islamistes ou des Touaregs, parce qu'on ne sait pas trop, entre le groupe Azawad, le MNLA, on ne sait pas très bien qui au juste dirige aujourd'hui le Nord Mali. Et par conséquent, le docteur Ikoué le disait tout à l'heure, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que l'Union africaine ne joue aucun rôle. Pourquoi peut-on laisser la CDAO régler ce problème-là? On est africain. L'Afrique est une et indivisible. À partir du moment où un pays membre de l'UEA se retrouve dans une situation comme celle-là, je crois que c'est l'UEA qui doit agir. Il n'y a pas d'autre chose. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un pays qui est en train de tomber. On parlait d'une société complètement divisé, des gens qui ne condamnent même pas le putsch, un président qui a agressé, de transition on va dire, mais c'est très grave, c'est du jamais vu, je n'ai jamais vu chose pareille dans le monde, donc personnellement, moi je crois que il y a surtout un petit jeu subtil des Européens qui, parce que j'ai eu dire, hein, je ne suis pas allé au Mali, au Nord Mali, qui avait des richesses là-bas. On sait très bien que ces gens-là, ils déstabilisent des pays pour arriver en tant que sauveur et puis profiter des biens de ces pays-là. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement au Mali aujourd'hui? Bon, c'est le chaos, c'est le chaos total.
Oui, effectivement, c'est le chaos total. Docteur Yves Amaïzo, hein, écoutez, Hervé Ladzou, hein, chef du département des opérations de maintien de la paix à l'ONU, a affirmé cette semaine qu'ils ne sont pas prêts lorsque le président béninois Yayi Boni demande l'appui de l'ONU pour une intervention militaire africaine au Mali. Alors, d'ici le temps de réunir et de convaincre l'ONU, hein, de la nécessité, l'urgence, le pire ne risque-t-il pas d'arriver au Mali, Dr Yves Kouyamagizo?
Écoutez, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Non seulement je soutiens ce qui vient d'être dit, mais il faut dire la vérité. Les chefs d'État africains de la zone, et plus particulièrement du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, dont le dossier malien, ne sont pas sérieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. On ne peut pas se lever et dire qu'un capitaine qui a fait un putsch, un coup d'État, quelles que soient les raisons, on se lève et on va lui donner le statut d'ancien chef d'État avec tous les droits. Ça veut dire que tous les capitaines africains n'ont qu'à faire un coup d'État pour avoir le statut de chef d'État. Et ça permet en plus de montrer que maintenant qu'on a donné un statut de chef d'État à un putschiste, le même chef d'État demande maintenant aux organisations internationales d'intervenir. C'est d'abord un signe d'impuissance, un signe de faiblesse, voire d'incapacité de la CDAO. La réalité, c'est que la CDAO, normalement, intervient souvent avec le Nigeria. Malheureusement, le Nigeria est pris dans les problèmes aussi islamiques avec Boko Haram, qui est un groupuscule qui, lui, met des bombes partout. Et ils ont signé des accords avec Ansardine et avec Al-Qaïda au nord du Mali. Et ils savent très bien que si la CDAO intervient aujourd'hui, ils vont mettre des bombes sur Bamako, en tout cas au sud. Alors quand le président Yayi Boni, en France, demande la création d'une force militaire africaine avec l'appui de l'ONU, c'est très gentil. Mais il faut que le président Yayi Boni regarde un tout petit peu autour de lui. Quand est-ce qu'ils ont cotisé pour créer une armée, normalement, au moins au niveau sous-régional, pour ne pas dire au niveau continental? Ça a été demandé par Nkrumah depuis le début, ça a été redemandé par Kadhafi, ça a été demandé par la plupart des gens de la diaspora. Ils n'ont jamais fait cela. Et quand ils envoient des gens, notamment des militaires, qui ont tapé sur les populations au niveau local, dans les institutions des Nations Unies, les trois quarts du temps, on ne les entend pas seulement se bagarrer. Alors, ils n'ont pas intention, en fait, de faire un échec à Sardine, voire même aux islamiques. Il y a un deuxième problème beaucoup plus grave dans cette histoire, c'est qu'on se demande pourquoi la France, qui a des accords avec les pays africains, notamment le Mali, quels que soient les changements qui sont intervenus sous Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, pourquoi elle n'a pas intervenu? Si elle n'est pas intervenue, ce qui est son droit le plus absolu, elle aurait pu aussi donner des armes. Parce que si le président ATT avait envoyé un petit peu quelques bombes au nord là-bas, je ne pense pas que l'attaque d'abord aurait été si rapide et aussi radicale. Et aujourd'hui, quelle que soit la force qui va venir, la CDAO ou l'Union africaine ne pourra pas intervenir si d'abord les Africains eux-mêmes ne constituent pas une force d'intervention.
Mais ça, c'est vrai, oui.
Il faut le dire à cela. Si une force vient, même si ça vient que le statut de l'ONU, vous savez très bien que les pays occidentaux ne respectent pas les statuts de l'ONU. On a vu le cas de Côte d'Ivoire, on a vu le cas de la Libye. Voilà d'ailleurs pourquoi la Chine et la Russie refusent de signer quoi que ce soit pour la Syrie. Donc on sait très bien que quel que soit ce qui va être écrit au niveau de l'ONU et ça va être demandé, ça ne se fera pas. Et vous savez très bien que quand les demandes viennent du côté des Africains, les Occidentaux ne mettent pas ça en jeu pour une raison toute simple, ils ne veulent pas dépenser de l'argent quand leurs intérêts ne sont pas en jeu. Et on va finir sur un dernier point, il y a des otages français qui sont plutôt dans les mains des gens du Nord, et quels que soient ceux qui le détiennent, plutôt les gens d'Al-Qaïda. Et vous croyez que la France va aller exposer leur vie? Certainement pas. Il est plus facile de la France d'intervenir de manière beaucoup plus discrète, directement, pour récupérer ces otages, en justement n'intervenant pas, plutôt qu'en intervenant du côté des Africains. Et je vous rappelle encore, ces chefs d'État, ils font des actions de manière individuelle. Je ne pense pas que la plupart des chefs d'État aient été consultés. Je ne pense pas que ça ait été démocratique.
Merci.
C'est une initiative vraiment du Burkina,
d'Alassane
Ouattara. Et on a des conséquences négatives aujourd'hui sur le peuple malien.
Nous allons donner également la parole à Alain Jules, journaliste blogueur. Il est d'origine, et il est camerounais. Il faut quand même le rappeler. Et Alain Jules, qu'est-ce que vous répondez lorsque Yayi Boni demande l'appui de l'ONU pour une intervention militaire africaine au Mali?
Oui, de toutes les façons, il parlait tout à l'heure de nos chefs d'État, des gens inconsistants, ils ont peur de tout, même de leur ombre. Et donc, Yayi Boni qui prend cette démarche-là, en rencontrant le nouveau président français, il sait très bien qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien, parce que ces gens-là, ils ne pensent qu'à eux, c'est-à-dire que ce sont les intérêts, soit allemands, soit français, soit anglais, qui passent en tête. Et puis, on parlait tout à l'heure des otages français qui sont détenus par ADMI, hein, n'est-ce pas, Al-Qaïda ou Maghreb islamique. Effectivement, la France ne prendra pas le risque, alors qu'il y a des accords militaires entre le Mali et la France, pour aller intervenir au Mali, parce qu'il faut intervenir où au Mali aujourd'hui? C'est au nord. parce que bon, au niveau du Sud, les choses peuvent s'arranger. Sanogo a déclaré qu'il allait organiser des élections. Bon, il y a eu des petites pressions. Là, ça peut se passer. Mais effectivement, au Mali, où il faut vraiment intervenir, la France ne bougera pas le petit doigt. Et ce n'est que la France, la seule puissance, effectivement, qui peut intervenir là-bas. Je ne crois pas que les Anglais ou les Américains vont aller intervenir, parce que quand on parle de la force de l'ONU, mais laquelle ? Est-ce que ce sera l'OTAN ? Donc, ou alors des casques bleus, habituellement, ils n'interviennent pas hein, militairement. Donc, c'est juste pour le maintien de la paix. Donc, quand Yayi Boni prend cette démarche-là, on se pose des questions. On se dit, mais est-ce que il maîtrise réellement le fonctionnement des relations internationales ? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, le docteur Ecoué disait tout à l'heure que c'est très gentil. Oui, c'est hyper gentil, mais ça n'aboutira à rien. Et donc, le Mali va continuer à s'enfoncer. Ça, soyez-en sûrs, tant que nous-mêmes, Africains, ne prenons pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, si le chef de file, les chefs de file, on va dire le président burkinabé Compaoré et le président ivoirien Alassane Ouattara ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer au Mali, qu'ils sachent que ça va s'enchaîner chez eux. C'est évident. Il faut
pas. C'est évident. Merci Alain Jules. Et il faut quand même retenir également que le nord du Mali est partagé entre trois différentes fractions d'idéologies différentes, hein, et les groupes Ebenla et Acmi, tandis que le sud est contrôlé et par le Poutis et Sanogo. Alors, Dr. Yves Ekwemaiso, peut-on dire que la scission est consommée et par ricochet, les pays voisins sont en voie de déstabilisation, Dr. Yves Ekwemaiso?
Répondre aux problèmes de fond que vous posez, il faut faire un peu d'histoire. Qui a divisé le Congo en Afrique ? Il y a deux Congos. Qui a divisé l'Éthiopie et l'Érythrée ? Qui a divisé le Soudan et le Soudan Sud ? Alors, qui est en train de diviser le Mali, Mali Nord, Mali Sud ? Il faut que les Africains se posent la question. Il faut que l'Union africaine se demande quand est-ce qu'ils ont pris la décision qu'on ne fait pas de guerre sur le sol africain, et quand ils sont passés par derrière l'Afrique du Sud en tête, pour aller demander à l'ONU d'intervenir et pour faire la guerre. Ce sont des armes qui ne sont pas fabriquées par les Africains, à ce que je sache. C'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas que Yayi Boni, au nom de je ne sais trop qui, essaie de transmettre la patate chaude au niveau de la France. D'ailleurs, M. Hollande lui a dit non, indirectement, en lui faisant bien comprendre, d'abord qu'il ne fera aucune demande, en tant que France, et que la demande doit venir de l'Union africaine. Ça veut dire que c'est une demande pratiquement qui n'a aucune chance d'aboutir s'il n'y a pas un budget. Parce qu'ils sont tous pris dans d'autres problèmes avec l'Afghanistan, avec la Syrie, et j'en passe des meilleurs. C'est la première chose. Et c'est plus facile pour eux de signer des accords avec des gens qui les ont battus en Afghanistan, qui sont les mêmes qu'on retrouve au Mali Nord, pour libérer leurs otages d'abord, et éventuellement accéder aux matières premières, parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Il faut voir la cartographie d'ailleurs, c'est ça que les gens oublient au Mali. Regardez bien la cartographie. Vous verrez que l'essentiel des matières premières se trouve justement au Nord. Alors, tout ça veut dire quoi ? Qu'au fond, les mêmes éléments se reproduisent. Et il n'y a aucune analyse stratégique au niveau de l'Union africaine, encore moins de la CEDEAO, pour agir. Non, on pense seulement dans des groupes ésotériques à aller mettre des types à la tête des États à gauche et à droite, en pensant que ça y est, parce qu'on a fait des études, on va résoudre le problème. Alors, revenons sur le fond. C'est quand même des rebelles qui viennent attaquer le Mali, qu'ils soient Touareg ou pas, qui revendiquent l'indépendance ou pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est vraiment différent ? Comment s'est comportée cette communauté internationale dans le cas ivoirien ou le cas libyen ? On ne peut pas compter nécessairement sur ces gens-là. Donc il y a deux problèmes. Le budget, qu'ils ne vont pas donner, et deuxièmement, beaucoup plus en profondeur, la déstabilisation africaine les arrange, parce que quand on a 5% de croissance que nous avons en tant qu'Africains en ce moment, et que l'Europe caracole au mieux à 1%, sinon à 0,5%, cette déstabilisation de nos territoires africains ont un avantage, c'est que ça réduit, ralentit complètement le développement africain et ça empêche que les fruits de la croissance aillent aux populations. Et donc c'est un retard de développement et c'est vraiment dommage pour le peuple malien et c'est même un gâchis pour ce peuple malien. Mais il faut prendre conscience de la chose, il faut consulter avec la diaspora africaine, quelle qu'elle soit, pour comprendre, le toujours de les prendre pour des opposants. Il y a des cerveaux qui sont là et il y a des expertises qui sont là et des analyses dans tous les secteurs qui peuvent aider à comprendre la situation d'abord avant de faire une proposition. On ne veut pas proposer à quelqu'un qui, de fait, vient de prendre le pouvoir en France, qui n'a pas d'argent, qui a une organisation de réduction. Ils prennent le train aujourd'hui, ils ne prennent plus l'avion. Il faut que les Africains comprennent cela. Ce n'est pas les décisions à l'emporte-pièce africaine où on prend un avion, avec une seule femme on va à Paris, on revient, comme certains pays que je ne vais pas citer ici, que tout le monde connaît. Alors, ces champs de choses, ça ne peut pas continuer. Alors, la question que vous avez posée, la partition du Mali est-elle définitive? Rien n'est définitive. Vous posez le problème de fond, qui est celui de l'intangibilité des frontières africaines. Tous ces chefs d'État continuent à dire qu'il faut vivre sur l'intangibilité des frontières coloniales. Mais demandez aux gens d'Azawad, demandez-le aux Touaregs. Mais c'était leur territoire. Il n'y avait pas de frontières dessinées, mais c'était leur territoire. Il se trouve qu'ils se s'appelaient Mali. Que les Maliens eux-mêmes aillent en profondeur pour qu'ils se disent, mais finalement, cette frontière, qui l'a tracée? Qui a séparé les différents peuples là-bas? On voit bien pour les évêques du Togo, on est au Ghana, Togo et au Bénin. Alors, ces choses-là, il va falloir que les Africains décident entre eux. Il faut lever l'intangibilité des frontières. Il faut revenir à ce qu'a dit Nkrumah.
Merci, Yves Abaïso.
C'est-à-dire que les espaces sont des espaces qui doivent nécessairement être organisés par les Africains et devenir des États fédérés.
Et nous allons également laisser Alain Jules, journaliste blogueur, faire également ses commentaires. Alors Alain Jules, il y a deux groupes qui sont en présence au Mali, il y a ACMI et MNLA, tandis que le sud est contrôlé par le Poutis et Sanogo. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une scission déjà consommée au Mali, et Alain Jules?
Effectivement, les choses ne sont pas mécaniques, hein. On va dire que rien n'est consommé. Il peut avoir toujours une solution, notamment l'avantage c'est que les groupes, donc le groupe Azawad, le MNLA, ACMI ou en sardine, n'arrivent pas à s'entendre. C'est positif. Ça veut dire que aujourd'hui c'est un or un peu parcellaire. Il y a rien de vraiment matériel au niveau des frontières, etc. C'est-à-dire il y a un groupe à Tombouctou, un autre dans telle autre ville, etc. Donc effectivement, comme le disait tout à l'heure le docteur, il n'y a rien, rien n'est fixe, hein. Donc des choses peuvent éventuellement changer, mais pour cela, c'est l'Union africaine qui doit travailler. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que on peut créer un embargo dans cette zone-là. Bon, c'est vrai que les populations vont souffrir en premier, mais à partir de là, je crois que ces gens ne peuvent pas avoir un État. C'est pas possible. L'ONU peut faire pression, ne pas reconnaître cet État, l'Union africaine, etc. Donc, il y a plein de batteries qui peuvent être en jeu pour que cette zone malienne-là reste vraiment malienne. Mais c'est vrai que, bon, s'il faut parler de l'histoire, revenir sur ce qui s'était passé depuis des millénaires, etc., effectivement, cette zone a toujours été Touareg, ça on le sait très bien. Mais bon, maintenant, effectivement, avec les frontières créées par les Occidentaux, bon, on se retrouve dans ce genre de situation où des gens se sentent un peu vidés de leur substance et veulent revenir, n'est-ce pas, de façon originelle à leur terre. Bon, on peut comprendre ça, mais effectivement, on ne vient pas de cette manière-là, avec des armes. Donc, ce doit être condamné. Donc, quelque part, ce sont les mêmes gens qui agissent un peu partout en Afrique, et comme je disais tantôt, ils pourront effectivement agir aussi en Côte d'Ivoire demain, agir au Bénin demain, agir au Burkina Faso demain, au Niger, etc. Donc il faut faire très attention. Si les Africains ne s'engagent pas vraiment à éradiquer, je veux dire, ces bandes armées-là, je crois que l'Afrique va vivre vraiment des moments très, très difficiles.
Voilà. Merci à nos deux invités panafricanistes. Il s'agit du docteur Yves Ikouyamaïso, qui est directeur du groupe d'influence afrocentricité, et docteur Yves Ikouyamaïso, également économiste et consultant international, et Alain Jules, il est journaliste blogueur. Mais avant de continuer ce tour d'horizon sur l'actualité politique africaine, nous marquons une pause, mais je demande à mes invités de rester toujours en ligne.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
TogoCity.com, Isilome.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, africainternews.com, sont nos sites d'information panafricaine, partenaires de Fenêtre sur Afrique. Fenêtre sur Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, merci de nous suivre en direct sur le www.canalk.ch. Retour au studio avec mes invités, panafricanistes, Dr. Yves Kouyamaison, Alain Jules, journaliste blogueur. Nous allons parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Alors, arrivé au pouvoir depuis plus de 15 mois avec l'appui direct des forces armées de la France, hein, s'il faut le dire comme ça, et sous le mandat de l'ONU, Alassane Ouattara peine à réconcilier les Ivoiriens. Et il vient même de limoger son ministre de l'intégration africaine et figure de proue du régime. Et ce dernier était très impliqué dans la résolution de la crise malienne. Alors, Dr. Yves Kouyamaison, peut-on parler déjà d'une mission impossible pour le président ivoirien?
La mission en Afrique, elle est ou bien tout le temps impossible, ou bien elle demande de l'originalité. Alors, pour répondre à la Côte d'Ivoire, je voudrais faire une proposition sur le Mali. Il existe une solution militaire, ça a été dit tout à l'heure. Mais il y a aussi une solution politique. Elle consiste à ce qu'il y ait une fédération du Mali, avec au moins deux régions, nord et sud, et donner un peu le temps pour que tout ceci se calme, pour faire un référendum et permettre aux populations de s'exprimer. Pourquoi je vous dis ça pour le Mali? Parce que pour la Côte d'Ivoire, ce sera peut-être aussi la solution. Alors, il faut être clair dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'ONU a donné un mandat, peut-être. Mais le mandat de l'ONU n'a pas demandé à la France d'aller déloger un président africain dans la présidence du pays et de le kidnapper, parce qu'il n'y avait pas un mandat de kidnapping. Qu'on soit clair sur ces choses-là. Et donc ce sont ces éléments qu'il faut comprendre qui posent des problèmes aujourd'hui pour une réconciliation dans ce pays. Et d'autres pays ne veulent plus soutenir. Regardez ce que a dit M. Poutine sur la Côte d'Ivoire. Il a demandé aux pays occidentaux d'aller regarder quand on signe des accords à l'ONU et qu'on ne les respecte pas, comment voulez-vous avoir l'appui des autres? Alors, on nous dit Alassane Ouattara est un grand président économiste, bien sûr. Seulement, en termes d'exemplarité, on voit bien que dans son propre gouvernement, il est obligé de mettre des éléments dehors. Mais il a oublié certains qui sont venus par le Nord et des rebelles. Certains qui sont aujourd'hui présidents du Parlement. Donc, tous ces éléments font que c'est deux poids, deux mesures. Et certains diraient en Afrique, cinq poids, cinq mesures. Le limogeage du ministre, mais c'est un élément parmi tant d'autres. Qui ne savait pas que ce ministre était impliqué depuis le début dans cette histoire des déchets toxiques? On le savait. Donc pourquoi l'avoir choisi? Revenons à un cas beaucoup plus simple encore. Comment voulez-vous, quand un putschiste, Burkina Faso, choisit un autre putschiste et lui donne le statut de chef d'État au Mali, qu'on puisse faire confiance à ces chefs d'État quand vous les retrouvez au niveau du G8, du G20, quand ils sont invités? Ce sont tous ces éléments-là qu'on doit prendre en compte sur le plan international, qui fait que les chefs d'État africains, quand ils arrivent, ils ne sont pas crédibles. On les utilise juste quand les intérêts sont en jeu. En dehors de ça, ils ne sont pas crédibles.
Merci, Dr. Yves Ekouya-Maïso. Alain Jules, quel est votre commentaire sur l'actualité et politique en Côte d'Ivoire?
Oui, c'est vrai que actuellement c'est un peu compliqué, hein, on va dire, pour le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que il y a effectivement de graves atteintes, hein, au processus de paix ou de réconciliation nationale, comme ils disent là-bas. Et par conséquent, ce que je veux dire, j'ai l'impression que, d'après les échos que j'ai de la Côte d'Ivoire, la chasse aux sorcières se poursuit. C'est un peu regrettable. C'est-à-dire que on peut se comporter en tant que vainqueur. On peut bien se comporter, pardon, en tant que vainqueur, que de créer des élections. C'est-à-dire que si des pro-Bagbo se réunissent, on vient troubler leur réunion, etc. Et justement, j'ai eu des échos où ces partisans de Bagbo demandaient que vraiment la réconciliation se fasse vraiment de bien belle manière. C'est-à-dire que qu'on n'exclut personne et qu'il y ait vraiment notamment un grand débat national. Et donc malheureusement, le gouvernement apparemment ne crée pas ces conditions-là pour faire aboutir ce processus-là. Donc pourquoi est-ce que c'est voulu? Est-ce que le président Ouattara veut régner, veut diviser pour mieux régner? On ne sait pas trop, quoi. Donc
C'est assez compliqué. Vous savez, j'ai l'impression, moi, que personnellement, les dirigeants actuels en Côte d'Ivoire, que j'ai pourtant, j'ai cru, hein, je croyais qu'ils avaient de bonnes intentions, ne veulent pas qu'il y ait la paix. Parce que je crois que c'est du côté du plus fort. Ce sont les plus forts qui doivent tendre la main aux plus faibles. Je considère que les plus faibles, c'est l'opposition, et les plus forts, c'est le pouvoir en place. Donc à partir du moment où le pouvoir en place ne tend pas la main à l'opposition, il n'y aura pas de paix. Et puis des gens qui sont au jugement, qui ne sont même pas en jugement, qui sont gardés dans les géoles, c'est assez compliqué, vraiment. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. C'est vraiment...
Merci. Merci. Et Dr. Yves Kouyamaïso, le procès des responsables politiques de l'ex-président Laurent Gbagbo a débuté le 31 mai dernier. Et alors, peut-on d'ores et déjà également parler de parti pris? Et dès lors que Pascal Afinguessan, l'ex-président du Front Patriotique Ivoirien FPI et de Laurent Gbagbo, est détenu en prison, et maintenant que Pascal Afinguessan peut se présenter devant un tribunal dont la partialité n'est pas totalement démontrée, alors peut-on également parler d'une lueur d'espoir pour Michel, et le fils de Gbagbo, où l'horizon est encore sombre pour ce dernier, Dr. Yves Kouyamaïso?
Écoutez, il y a deux choses dans vos questions. Il faut toujours regarder l'Afrique dans le concept et les valeurs africaines. On parle d'Ubuntu, on parle des grandes valeurs africaines que nous connaissons tous dans nos villages. Pour résoudre un tel problème complexe, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il faut revenir aux cultures ancestrales africaines. Cela consiste en quoi? Que les deux protagonistes, quelle que soit leur position aujourd'hui, se parlent. Alassane Ouattara doit aller là-bas à La Haye, aller discuter avec Gbagbo. Et s'il trouve que Gbagbo n'a pas fait plus que Soro, il ramène Gbagbo en Côte d'Ivoire et on fait la paix en Côte d'Ivoire. L'Afrique est un pays de paix, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Il faut que ce soit là-bas que ça se discute. Maintenant, si les deux camps n'y arrivent pas, alors c'est la population qui va perdre confiance dans Alassane Ouattara avec le temps. Et si dans aujourd'hui ou dans quelques jours ou dans quelques mois vous faites des élections dans ce pays, il n'est pas du tout sûr que le monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui récolte les mêmes soutiens. Donc qu'il fasse attention, c'est dynamique, la population telle qu'elle fonctionne. Donc revenons aux cultures ancestrales africaines où nous savons comment nous résolvons les problèmes quand c'est difficile, quand c'est complexe. Maintenant sur les individus, vous avez parlé de Laurent Gbagbo. Sachez que son avocat a mis en cause la Cour pénale internationale comme n'étant pas compétente pour pouvoir le juger. Tout simplement parce que quand Alassane Ouattara a demandé et a envoyé un courrier pour ratifier le statut de Rome, qui est le traité fondateur de la Cour pénale internationale, il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'avait pas justement ratifié. Donc c'est Alassane Ouattara qui l'a fait, et il l'a fait en fait quand il n'était pas encore devenu chef d'État officiellement par la Cour constitutionnelle. Donc sur le plan de la procédure juridique purement, c'est un vice de procédure. Et normalement, si le tribunal CPI est sérieux, il devrait en fait annuler ce procès et ramener les choses en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de Pascal Afinguessan, c'est le bouc émissaire. On a choisi quelqu'un, on lui met tout sur le dos, il ne bénéficie même pas des avantages qu'il y a au moins à La Haye, et on va essayer de tout lui coller sur le dos. Mais il y en a un autre qui attend là-bas au Parlement, il s'appelle Soro. Pour le fils Michel Gbagbo, alors là, c'est l'aberration même. Il a une double nationalité. Il est ivoirien, il est aussi français. Sa maman demande depuis longtemps qu'il rentre, que la France puisse faire quelque chose. Bien sûr, sous Sarkozy, rien n'a bougé. Alors il faut essayer et espérer qu'avec M. Hollande, peut-être que des discussions vont se mettre en place. Mais je ne vois même pas pourquoi il garde ce monsieur. C'est un assistant conseil qui faisait son activité de conseil. À partir du moment où les responsabilités sont sur M. Gbagbo le père, je ne vois pas ce que les autres éléments ou les autres individus doivent venir faire dans cette histoire.
Effectivement.
Et dernier point très important, qu'on n'oublie pas l'essentiel. L'ONU n'a pas donné mandat d'aller kidnapper quelqu'un. C'est très important. L'ONU n'a pas demandé un mandat d'aller kidnapper. On a voulu sécuriser les populations, on a voulu apporter la paix. C'est très important. Mais regardons la Côte d'Ivoire aujourd'hui. D'accord, ça bouge, les choses avancent. Mais quelles choses avancent? Des choses que Gbagbo lui-même avait plantées. Quelqu'un d'autre est venu arroser, quelqu'un d'autre va récolter. Donc regardons les choses sérieusement. Toutes ces compétences, ce sont des grands intellectuels, les Ivoiriens que nous connaissons. pourquoi ils ne peuvent pas travailler ensemble. Mmh.
Merci.
Pourquoi sont laissés chaque fois l'intervention de l'extérieur pour diviser le peuple noir, dans le cas particulier, le
docteur,
peuple ukrainien.
Docteur Yves Kouam, merci. Nous allons également laisser Alain Jules faire son commentaire et sur le procès des responsables politiques de l'ex-président Laurent Gbagbo et ce procès qui a débuté le 31 mai dernier. Alain Jules, quel est votre commentaire?
Ce que je veux dire par rapport à ces procès, notamment celui de Pascal Affine-Guessan et puis du fils Gbagbo, je ne sais pas si lui, il a une quelconque responsabilité hein, dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Bon, il a peut-être le tort de porter le nom de son père. En revanche, il faut quand même apporter une petite précision par rapport à la CPI, parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on a ratifié forcément ou pas du tout, n'est-ce pas, le traité de Rome, que des ressortissants de tel ou tel pays ne peuvent pas être condamnés par la CPI. Bon, il y a un cas, par exemple, celui de Béchir, hein, le président soudanais. Donc, ceci dit, mais il y a quand même quelque chose de très grave, effectivement, par rapport au fait que le président Gbagbo se retrouve à la haie. Je ne comprends pas comment ça peut se faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer son prédécesseur être jugé par l'étranger. C'est-à-dire que c'est un signe de faiblesse et puis c'est une faute politique pour moi. Si effectivement on nous dit que les tribunaux ivoiriens ne sont pas très compétents et que peut-être à la CPI, comme le disait Ocampo récemment, il va bénéficier de l'impartialité des juges, etc., etc., ce monsieur, il devait être jugé chez lui quand même. Je crois que c'est la plus bonne chose qu'il faut faire. Et puis, si on l'accuse d'avoir tué 3000 personnes, où sont les autres alors? Si c'était lui le donneur d'ordre, on a arrêté qui d'autre? C'est Affine-Guessan, c'est son fils, c'est son épouse. Non, je crois qu'il y a un problème. Si on veut une vraie réconciliation, effectivement, vous savez, les révolutions, si on peut parler de révolution en Côte d'Ivoire, il y a toujours des martyrs. Moi, pour moi, personnellement, je dis que je considère si c'est vrai, d'ailleurs, il faut déjà déterminer si c'est vrai que c'est lui qui a tué ces gens-là, ce sont des martyrs. Et puis, pour qu'un pays avance, il faut la réconciliation. C'est tout. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, déjà, ce monsieur est à la CPI. Et donc, je crois que on ne pourra même pas déterminer sa responsabilité par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas par où, sur quelle base ils pourront démontrer qu'il est à l'origine de tous les malheurs qui sont sur la Côte d'Ivoire. Il y a bien évidemment, les gens au pouvoir ont aussi été à l'origine de certaines exactions, et tout le monde le sait. Donc ce sera vraiment très très mauvais signe, et je suis convaincu et qu'il ne sera pas condamné. Et je suis convaincu, hein. Bon, maintenant,
merci.
Madame Irma pour le dire, mais je suis convaincu qu'il ne sera pas condamné.
Alain Jules, merci. Un fait quand même surprenant dans cette crise ivoirienne, hein, c'est que la communauté internationale se retrouve confrontée au refus du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire de livrer tout ce qui sont impliqués dans la guerre dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Au même moment, l'ex-président Laurent Gbagbo est seul à être détenu par la Cour pénale internationale et personne ne dit rien, Yves Kouyamaïso.
Écoutez, il n'est pas exact que personne ne dit rien. Je rappelle que les ministres français qui ont ordonné des massacres et des assassinats des populations africaines n'ont jamais été condamnés par une Cour pénale internationale, ni une Cour pénale africaine d'ailleurs qui reste à créer. Je rappelle que ceux qui ont détruit des vies en Irak, en Afghanistan, quand il s'agit d'Occidentaux, n'ont jamais été appelés par la Cour pénale internationale. Alors, quand on donne l'exemple de Béchir, je veux bien accepter, ou du Soudan, mais en fait, Béchir s'en fout complètement. Béchir est allé se promener au Kenya, quand les Kenyans qui a signé, qui devait donc attraper le président soudanais pour l'amener, le président de Kenya a dit à la Cour pénale, écoutez messieurs, on m'a apporté beaucoup d'argent pour mon budget. Ça fait des années que j'attends que vous me donniez des budgets pour m'aider, moi, dans mon développement. Écoutez, j'ai des priorités beaucoup plus importantes. Monsieur Béchir peut bien venir chez moi, me donner de l'argent. C'est une priorité qui passe par la proximité, donc les pays voisins, beaucoup plus importante que les intérêts internationaux. Ce qui veut dire quoi? Que la Cour pénale internationale est une structure d'abord politique. Et donc, c'est deux poids, deux mesures. On n'a pas dit et on n'a pas cherché à savoir les responsabilités de la plupart des Occidentaux de l'Ouest. Il faut dire la vérité. On n'a pas cherché non plus à comprendre pourquoi beaucoup des chefs d'État, sans le savoir, parce qu'on leur donnait un peu d'argent, sont tous allés signer en oubliant qu'un jour ça pouvait leur retomber dessus. Beaucoup plus grave, comment se fait-il que l'Union africaine qui est en cause, le Sénégal indirectement, n'a toujours pas créé le tribunal nécessaire pour juger un chef d'État? Pourquoi les débits qui sont là-bas et qui sont liés d'ailleurs à des lycées labrés ne sont toujours pas jugés? On peut en citer comme ça un certain nombre de ces genres de choses. Les Africains, en tout cas les dirigeants africains, sont sérieusement des poltrons. Des gens qui ont peur de leur propre ombre. C'est à cause de ça qu'ils n'osent pas créer un tribunal en Afrique. Même le grand milliardaire qui a fait tout, le Moïse Ibrahim, pour ne pas le citer d'ailleurs du Soudan, qui a fait une bonne structure de la gouvernance. Mais il nous aurait rendu un grand service au lieu d'aller faire des calculs pour nous dire qui est devant, qui est derrière, qui ne sont pas mieux que les autres index. Il aurait mieux fait de créer un tribunal. Permettre à des chefs d'État, au moins, au lieu de donner 5 millions parce qu'on a bien gouverné, il faut mieux de créer 5 millions pour un tribunal pour condamner celui qui a mal gouverné.
Merci.
On avancerait.
Docteur Yves Kouassou Amaizo, merci. Il nous reste qu'environ 10 minutes. Alors, si Alain Jules a encore des réactions, hein, Alain Jules.
Oui, par rapport à la Côte d'Ivoire.
Exactement, oui.
Oui, ben oui, je suis tout à fait d'accord hein, avec ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que effectivement, on le disait, nos chefs d'État sont inconsistants. Il faut le dire. Mais quelque part aussi, nos oppositions sont aussi inconsistantes. C'est-à-dire que on constate que finalement, les oppositions, c'est-à-dire c'est une série de personnes qui veulent juste un petit strapontin, font semblant d'être opposants, et puis quand on les appelle le soir et tout, ben c'est la population qui trinque. En bref, c'est ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, effectivement, moi je crois que si effectivement les gens en Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour dire non à ce genre de justice-là, je crois que les choses peuvent bien se passer. Mais malheureusement, c'est toujours la division. On est là, on a un clan, on a ceci ou cela, et par conséquent, ben, rien ne se fait en Afrique. Donc voilà le vrai mal africain. Uh-huh. C'est-à-dire que les chefs d'État inconsistants,
uh-huh.
une position inexistante,
uh-huh.
et du coup, effectivement, on tourne en rond, on n'avance pas, malheureusement.
Uh-huh.
Voilà.
Bien sûr, Alain Jules, nous allons rapidement terminer ce tour d'horizon que nous sommes en train de faire avec nos deux invités panafricanistes. Nous allons parler du Togo maintenant, où le vendredi 25 mai dernier, l'Assemblée nationale a voté sous haute surveillance militaire un projet de loi controversé et portant modification du code électoral en refus des recommandations de la CEDEAO et de l'Union européenne et qui sont ses partenaires privilégié. Alors, Yves Kouamaizo, assistons-t-on encore une fois à la démocratie viciée et qui se sort quand même pas des morts comme lors des élections présidentielles togolaises en 2005, Yves Kouamaizo?
Vous faites bien de dire qu'il s'agit d'une haute surveillance militaire à l'Assemblée nationale togolaise. Ce qui démontre d'ailleurs qu'on n'est pas dans un pays libre. Ce qui démontre que le niveau de qualité de la démocratie togolaise sous Faure Gnassingbé, qui est là depuis 2005 dans des élections contestées avec plus de 800 à 1200 morts et beaucoup de blessés, est toujours un problème. Ce qui dénote aussi que c'est un régime qui fonctionne en fait comme paravent civil pour des militaires non républicains puisqu'ils ne laissent pas l'Assemblée nationale travailler en toute indépendance, en son âme et conscience pour prendre des décisions. De quoi s'agit-il? Ils ont fait des redécoupages des circonscriptions et ils ont augmenté le nombre de députés et puis tout le monde est content? Non! Les gens ne sont pas contents, les partis politiques ne sont pas contents, il n'y a aucun consensus sur cette histoire. Tout cela, c'est pour pouvoir honorer, en fait, les Occidentaux pour qu'ils, eux, une fois que la façade est là, ils sont d'accord. Mais est-ce qu'on a même recensé les diasporas togolaises? Plus de 1,5 million ne sont même pas concernés par le recensement, donc ne pourront même pas être sur la liste électorale, donc ne pourront même pas voter, ne pourront même pas avoir un député. Alors, que fait ce gouvernement quand ils nous font des choses comme ça qui sont de la façade? Ils le font parce que les Occidentaux, la communauté internationale, continuent à légitimer des régimes de la contre-vérité des urnes, comme ils viennent de le faire au Congo, au vu, au su de tout le monde, y compris avec les églises qui ont rejeté tout ceci. Alors, changer le nom d'un parti politique, Rassemblement du Peuple Togolais, RPT, rebaptisé Unir, Mais c'est une vaste blague, c'est une vaste hypocrisie. L'unité togolaise a existé bien avant le RPT. Qui pose le vrai problème?
Je vous comprends.
L'unité ne peut se faire que si la vérité des urnes se met en place.
Justement, Dodo, Yves Kouamézo, je ne vous coupe pas avant de redonner la parole à l'injule. Et vous avez soulevé un problème pertinent sur la crise politique au Togo. Et vous avez publié tout récemment sur votre site cvutogodiaspora.org un article intitulé « Togo et ses militaires ». Alors, faut-il désarmer les forces armées togolaises pour permettre la vérité des unes? C'était là votre publication. Alors pourquoi parlez-vous de désarmement des forces armées? Et l'armée togolaise se dit pourtant républicaine, Yves Kouamézo.
L'armée dit ce qu'elle veut au Togo. La réalité est la suivante. Vous avez des coups d'État qui commencent depuis 67, qui se sont faits de manière militaire. Ces coups d'État, les militaires savent qu'ils ne peuvent pas rester au pouvoir parce que la communauté internationale ne veut pas voir du kaki ou des agents en uniforme. Donc on met un paravent civil. Pour que ce paravent civil puisse fonctionner, il lui faut un appui et une sécurité militaire. Donc ces militaires qui viennent protéger le civil, si le civil arrange les Occidentaux, le civil il reste en place. Si le civil vend les intérêts du Togo aux Occidentaux, il reste en place. S'il donne le port à des groupes qui ne donnent rien à manger aux Togolais, qui payent mal les Togolais, il reste au pouvoir. S'il ne distribue pas les salaires, ne crée pas de pouvoir d'achat, il reste au pouvoir. Pour qu'il reste au pouvoir, il faut que les militaires puissent avoir des armes pour le protéger. Et ces armes sont utilisées pour taper les oppositions. Il a commencé par le plus grand des partis d'opposition togolais, y compris son chef. Alors, toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a des armes. Donc, j'ai compris que, au fond, quand je dis c'est l'ensemble des experts qui font partie du CVU Diaspora Togo qui disent, écoutez, si le François Hollande, si Obama, si tous ces grands aujourd'hui sortent de leur hypocrisie, en tout cas de ceux de leur pays, pour le passé, et constatent qu'il s'agit d'un pays dirigé par des militaires, qui ont mis devant un paravent civil, qui souvent par incompétence n'arrive pas à créer de la richesse distribuée aux populations, alors le seul moyen de le faire, c'est qu'ils ne financent plus les armes qu'ils donnent à ces militaires pour frapper les populations, les armes pour ces militaires pour sécuriser celui qui continue à travailler
merci
contre les populations. Voici la logique qui a été dite dans le groupe de réflexion de CVU Togo Diaspora. Et si on ne le fait pas, c'est un grand chantage. C'est un chantage sur les populations.
Merci.
C'est la même chose qui a fait maintenant que les groupes islamiques l'ont compris, parce que quand la France n'a pas envoyé les armes, alors ils ont pris la moitié du Mali.
Merci beaucoup, docteur Yves Kouamézo. Nous tirons vers la fin de cette émission où nous faisons avec nos invités panafricanistes un point sur l'actualité politique africaine. Nous allons laisser réagir pour 2 minutes à Alain Jules sur les événements politiques au Togo. Alain Jules, vous êtes toujours là, Alain Jules?
Tout à fait. En fait, moi, ce que je veux dire par rapport au Togo, il y a un cynisme des Occidentaux, un cynisme de la CEDEAO, c'est-à-dire que effectivement, Sifor Nyasimbe, il travaille pour les multinationales occidentales. Comment voulez-vous qu'il parte du pouvoir? Vous savez très bien que dans chaque pays, il y a des représentations diplomatiques. Ces gens savent ce qui se passe au Togo. Et donc, on voit au niveau des chancelleries ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, l'ambassadeur français sait très bien que, ce sont les militaires qui sont au pouvoir, en réalité, et puis ils ont leur homme lige là, qui est là. Donc, comment voulez-vous qu'ils quittent le pouvoir? Il ne quittera jamais le pouvoir. Et vous savez que dans plusieurs régimes africains, quand vous faites une espèce de radioscopie de tout ça, vous constatez qu'il y a certains dirigeants qui sont là au pouvoir depuis des années et des années, et on attend probablement leur bonne mort pour qu'ils quittent le pouvoir, c'est parce que ces gens-là, ils graissent, comme on dit, l'armée. C'est ça au Togo, c'est valable au Togo, c'est valable au Cameroun, c'est valable dans tous ces pays où les multinationales françaises, surtout, on maîtrise tout, le port, bref, l'agriculture, etc. Donc, si vous n'avez pas cette réflexion-là, vous êtes perdu. C'est-à-dire que quand on sait que c'est comme ça, comment voulez-vous que la population se soulève? Si vous vous soulevez, les militaires vous tuent, Paris ne réagira jamais, Washington non plus. Donc il faut le savoir. Et quand vous savez ça, vous avez un peu de recul. Et vous vous dites, finalement, peut-être ce type, attendant qu'il meure, et puis on verra. Ou à défaut, si vous êtes vraiment, comme on dit chez moi au Cameroun, s'en fout la mort, et puis vous engagez, vous organisez des trucs, des marches, etc. Donc voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Jules, c'est vraiment déplorable. Le temps a malheureusement fait défaut, sinon nous avons encore beaucoup de dossiers à traiter dans ce tour d'horizon que nous sommes en train de faire avec nos deux invités. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Docteur Yves Kouyama Iso a été en direct avec nous dans cette émission depuis Vienne en Autriche. J'espère qu'il est toujours là. Merci beaucoup Docteur Yves Kouyama Iso. Hein.
C'est moi qui vous remercie.
Et je rappelle que vous êtes directeur du groupe d'influence Afrocentricité. Vous êtes également économiste et consultant international. Alain Jules, merci infiniment également d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur le www.canalk.ch. Alain Jules, merci infiniment. Hein.
Merci aussi Amos et puis à bientôt.
À bientôt. Alain Jules est journaliste, blogueur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. On a traité quand même la situation du Togo et de la Côte d'Ivoire, du Mali. Et nous aurons suffisamment le temps d'ici quelques semaines pour en parler d'autres actualités africaines. Encore une fois, merci et bonsoir.
Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Nyelolo. Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah, Nyelolo. Mama Africa, we nye danyelo loto. Anosi wo ye nyim to de vi meke. Diwone jeme, ajino batino.